tour de critique par le père Marie-Dominique Philippe, le 22 octobre 1993 à Saint-Jodard.
Ne vous inquiétez pas, ceux qui sont dans la première année, si le cours de critique est particulièrement difficile. C'est très facile de critiquer, c'est le plus difficile de bien critiquer. De critiquer selon son instinct, ça se fait très vite. Mais bien critiquer, c'est la chose la plus difficile. C'est une espèce de nettoyage extraordinaire pour que notre intelligence, voyez, ne soit pas alourdie par les fantasmes du matin ou du soir. C'est-à-dire par l'imagination, vous voyez, les fantasmes, l'imaginaire, la brume. On critique l'intelligence après avoir vu que c'est la première chose qu'on peut critiquer. Je ne peux pas critiquer en premier lieu ma connaissance sensible. La connaissance sensible ne peut pas être critiquée par elle-même. Elle est critiquée par l'intelligence. Donc, c'est l'intelligence qui peut seule se critiquer directement parce qu'elle a le pouvoir de réfléchir sur sa propre activité. Et je vois tout de suite que ma vie intellectuelle, qui est au niveau de la signification, tandis que la vie de l'imaginaire est au niveau de la représentation, réfléchissait tout simplement sur la représentation du petit chat et la signification du beau chat. Faites la caricature. Représentation de Monsieur le Chat. Il mettait de petites oreilles, une barbe. Ça représente. Et c'est tout. Tandis que la signification, vous ne pouvez pas la représenter. Impossible. Et voyez, le symbole, c'est l'union de la représentation et de la signification. Toute connaissance symbolique implique une signification, implique une représentation. Ça, on le verra après. Mais c'est intéressant parce que c'est notre première manière de connaître. On connaît symboliquement. L'enfant vit dans le symbole. De façon remarquable. Il construit. Viens un peu. Puis alors, on suit. Puis vous racontez des tas d'histoires. Et vous les écoutez. Il n'y a pas du choix d'existence. Non, c'est pas la peine, lui. Il vit dans son imaginaire. Alors, on ne fait pas la critique du point de départ, parce que on critique toujours quand on est au sommet de la sagesse. La sagesse seule se critique. Il faut arriver au terme ultime pour pouvoir critiquer le point de départ. Alors, on critique la vie d'intelligence. La vie d'intelligence se présente à moi en premier lieu comme une vie capable de discerner l'erreur et la vérité, le jugement, l'adhésion. Mais je vois que l'adhésion ne peut pas être première. Et je découvre alors, en critiquant mon jugement, qu'il y a une opération antérieure au jugement qu'on appelle l'appréhension. Mais dont vous n'avez conscience que par le jugement. Le jugement est l'opération parfaite de l'intelligence. Ce jugement, opération parfaite de l'intelligence, implique une appréhension. Et faisons attention, et c'est là où il serait très intéressant de voir que toute connaissance idéaliste, toute philosophie idéaliste, ne peut plus faire la distinction entre appréhension et jugement. C'est là la grande confusion de la pensée idéaliste. C'est la différence entre le concept et l'idéal. L'appréhension saisit l'acuité. L'acuité. Vous savez ce que c'est que l'acuité, hein ? Ça, c'est un mot clé. Alors, il faut toujours reprendre. Je ne vais pas l'expliquer, parce que je l'ai expliqué au moins 5 ou 6 fois déjà, pour ceux de la seconde année. Ça vient du grec. C'est un mot qu'Aristote a inventé. Et c'est un mot que Sartre emploie. Oui ? Il faudrait voir d'Aristote à Sartre, comme le mot a pris des significations multiples. Sartre emploie qu'unité. Alors, en latin, en grec, puisque ça vient du grec, to, ti, en, eina. Toujours regardez ça de cette manière. Hein. Le to, ti, en, eina. Je ne mets pas les accents parce que je risquerai de mal les mettre. Alors, le to einein, le fait d'être, qui enveloppe le tien. Le tien, l'aoriste, qu'est-ce ? Qu'est-ce ? Il y a le ti esti, que vous connaissez bien. Vous commencez à vous familiariser avec le ti esti. Qu'est-ce ? Et chez les Grecs modernes, c'est le titi. Quand vous êtes arrêté et que vous avez une bande de gosses grecs, ils sont curieux, ils veulent regarder. Je me souviens quand j'étais première fois là-bas, en 50, ils regardaient si j'avais une bague. Ça va si j'étais marié ou pas. Alors ils n'en voyaient pas. Elle a dit Titi. Qu'est-ce ? Qu'est-ce ? Mais c'est le tiesti. Le tien, qu'est-ce ? Ce qui demeure. La horisex, ce qui demeure. Le ti-en, qu'est-ce ? Au lieu du to-enain. Dans le fait d'exister, qu'est-ce qui demeure ? Qu'est-ce qui demeure dans le fait d'exister ? Vous existez, qu'est-ce qui demeure ? On dira tout de suite la nature. Avicenne dira l'essence. Aristote dit to tienainain. Le tien. Le tien, c'est ce qu'il y a de plus intelligible et de plus profondément intelligible dans la réalité. Alors, on a traduit en latin quod, quid, erat, esse. Quod quid erat esse. Et comme c'est un peu trop long, on a dit quiditas. C'est un petit mot familial. Et on a traduit en français quidité. Vous voyez qu'on est très loin du totienenein. C'est un mot charmant et qu'Aristote a inventé. Pourquoi l'a-t-il inventé ? Il a inventé pour faire comprendre ce qui, dans la réalité, est connu en premier lieu. Ce que l'intelligence saisit en premier lieu dans toutes les réalités. La naissance de la vie intellectuelle dans l'expérience de la réalité. Nous disons le jugement d'existence. Mais faisons attention, le jugement d'existence, c'est un jugement. Mais avant le jugement d'existence, puisque le jugement d'existence, c'est ceci est. Il y a le nom et le verbe. Donc, il y a deux. S'il y a deux, ce n'est jamais premier. Qu'est-ce qui est avant la composition du nom et du verbe ? Qu'est-ce qui est avant ? Il y a l'appréhension. L'appréhension, c'est la connaissance simple de la vie d'intelligence qui saisit dans la réalité le toti enainain. Ceci est, c'est le to enain. Mais dans le to enain, il y a quelque chose. Ceci, c'est quoi ? Ça peut être la vache. Ceci, c'est peut-être la table. C'est tout. tout ce qu'on veut. Donc, dans le ceci, il y a une quiddité. L'appréhension saisit la quiddité. Tout tient là. C'est-à-dire ce qui, dans la réalité, est permanent. L'intelligibilité première de la réalité. Quelle est l'intelligibilité première de Pierre? Pierre, c'est ceci. Pierre. Quelle est l'intelligibilité première? C'est homme. C'est la quiddité, c'est le kat auto. Je dis ça exprès en grec, puisque kat auto traduit en latin le persé. Et le persé s'oppose au père accidens. Le persé, c'est ce qui est par soi. Ce qui est par soi. Ce qui se tient. La stabilité d'une chose, ce qui se tient. Qu'est-ce qui se tient en vous? Quand vous dormez, quand vous êtes fatigué, quand vous mangez, quand vous écoutez, qu'est-ce qui se tient? Homme. Si vous vous tenez mal, on dit, c'est pas une tenue d'homme quand même, tenez-vous bien, pas digne de vous. Si vous vous enivrez, pas digne de vous. Vous avez mangé comme un. Et vous ne mangez plus comme un homme. Oui. Qu'est-ce qui se tient en vous? Qu'est-ce qui fait la permanence en vous? Homme, votre nature, votre quiddité. C'est pour ça que saint Thomas dira quiditas et natura, c'est la même chose. Pour Aristote, non. Puisqu'il a inventé ce mot pour montrer la réalité face à l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence saisit en premier lieu? De la réalité, ce qu'il y a d'essentiel en elle. Le percer, ce qu'il y a d'essentiel en elle. Ce qui fait que la réalité est ça. Qu'est-ce qui fait que Pierre est Pierre, il est homme. C'est vrai, c'est sa nature, homme. Et c'est en même temps ce qui en lui est le plus intelligible. Tout ça, ça se tient, ça c'est quelque chose de très important. Ce premier acte de l'intelligence, il saisit de la réalité tout de suite ce qu'il y a d'essentiel. Mais naturellement, ça, j'en ai pas conscience. Tant que j'ai pas saisi ce qu'il y a d'essentiel dans une réalité, je tourne autour, c'est le périphérique. Le périphérique, c'est juste l'inverse de l'essentiel. Vous avez fait 50 fois le tour de Paris en périphérique. Est-ce que vous connaissez Paris? Et un imbécile dira, j'ai fait 50 fois le tour de Paris. Périphérique, je connais Paris. Alors vous direz, espèce de journaliste. Parce que vous avez fait 50 fois le tour de Paris, vous croyez connaître? Mais non, on ne connaît une chose quand on la regarde en elle-même. Quand on ne la regarde pas de façon périphérique. Celui qui regarde les choses d'une façon périphérique ne connaît pas la réalité. Tandis que celui qui la regarde directement, ah, j'ai été à Notre-Dame, ah, vous habitez au cœur de Paris. J'ai été à l'hôtel de ville, ah, vous habitez à l'intelligence de Paris. Non, non, non. À l'Institut. À l'Institut, là, je suis au cœur de Paris, l'Institut. Vous voyez comme ça les différents lieux, la tête, le cœur, les mains. Les mains, c'est plutôt. L'hôtel de ville, c'est plutôt les mains, ce qu'il faut faire, exécuter. Hein. Tout de suite. Alors, l'intelligence, naturellement, saisit ce qu'il y a d'essentiel. Naturellement. Et ça, c'est l'appréhension. Et l'appréhension a un mode d'assimilation. L'intelligence est un vivant. Et le vivant assimile tout ce qui est autour de lui, ce qui est assimilable. Et rejette le non-assimilable. Vous savez bien, quand vous ne rejetez pas biologiquement ce qui n'est pas assimilable, petit à petit, il y a en vous un état de corruption. Parce que vous n'avez pas rejeté le venin. On assimile ce qui est assimilable. Et l'intelligence, qui est plus vivante que la vie végétative, cherche son bien. Et son bien, c'est de saisir ce qu'il y a d'essentiel dans la chose. Et ça, c'est la cible, c'est l'appréhension. C'est très important de comprendre cette vitalité de l'intelligence. Et elle saisit avec netteté. Alors évidemment, on peut fourvoyer l'intelligence. Ce qui fait qu'elle confond le périphérique et le percé. Confusion de ce qu'il y a d'essentiel et bien de ce qu'il y a d'accidentel. Ce qui est autour. L'intelligence. Alors, ça, je le découvre en analysant. Ce qu'il y a de premier dans la vie de l'intelligence, c'est de saisir l'acuité. Et saisissant l'acuité, l'intelligence a une autre opération, toute nouvelle, qui est le jugement. Là, vous voyez, cette chose curieuse qui pose un problème très intéressant, le passage de la cuidité au nom. Le passage de homme à pierre. Pierre est concret, homme est abstrait. C'est le grand problème de tous les philosophes, et spécialement de la critique. Comment mon intelligence, qui a un mode abstrait, pourtant est faite pour le concret, puisque seul le concret existe. Homme n'existe pas, sauf dans mon intelligence. Tandis que pierre existe, seul le singulier existe. Or, c'est le singulier qui est la réalité que mon intelligence désire toucher, atteindre. Pierre est, ceci est. Et dans ceci est, il y a le nom et le verbe. Alors comment je passe de l'abstrait homme au concret pierre? Ça, c'est le grand problème. Ce problème que les idéalistes résolvent autrement que dans la philosophie réaliste. Donc, c'est le premier moment où je vois la différence entre une intelligence réaliste et une intelligence idéaliste. Ça, c'est quand même très important. Vous savez, les déraillements, il faut toujours voir le moment où le déraillement se fait. Déviation. Si vous ne voyez pas la déviation, perdue. Puis vous continuez la déviation, puis au bout d'un certain temps, vous ne voyez plus. Parce que c'est très rare que les déviations sont bien notées. La France, qui est un pays logique, se trompe toujours dans les déviations. Tout est très bien noté quand vous connaissez le parcours. Quand vous ne le connaissez pas, c'est très mal noté. C'est curieux, hein ? Faites cette petite expérience, vous verrez. Et là, vous comprenez qu'il y a quelque chose là qui cloche. Vous passez de l'abstrait au concret. Homme. Vous avez d'abord, alors là c'est toute la question, vous avez d'abord appris à dire homme. L'enfant a d'abord dit papa, hein, en premier lieu. Et tous les hommes étaient des papas. Puis après il a fait un discernement entre homme et papa. C'est un discernement extraordinaire. Le passage du concret à l'abstrait. Homme, c'est abstrait. Papa, c'est concret. Papa, c'est tel homme. Homme, c'est tous les hommes. Maman, la femme. Vous voyez, il y a là un passage vers la montée et un passage extrêmement important au plan critique. Comment je passe du concret à l'abstrait, c'est par le verbe. Le jugement touche le verbe et par le verbe touche le singulier. Donc vous voyez, vous voulez passer de la cuidité au nom directement, vous n'y arrivez pas. C'était l'erreur des scolastiques. Ils se sont heurtés devant ça. Ils ont oublié que c'était par le verbe. Parce que le verbe est plus connu que le nom. Ceci est. Quand vous dites ceci est, le verbe. C'est par le verbe être que vous atteignez ceci. Puisque seul le ceci est actué par l'être. Être est plus actué que le ceci, donc il est plus connaissable. Alors ça, c'est très très important à comprendre. Parce que pour Occam, qui représente un très grand tournant dans la scolastique, Occam franciscain de Londres, un franciscain qui cherche quel est le point de départ de ma connaissance. Et pour lui, le point de départ de la connaissance, c'est l'appréhension. La scolastique l'a dit. Première opération d'intelligence. Et qu'est-ce que c'est que le jugement? C'est la somme des appréhensions. Et vous voyez, la somme des appréhensions. Homme, vous additionnez homme, tel homme. Et vous avez le nom. Oui, mais comment avez-vous connu tel homme? Ça, il ne le dit pas. Donc pour lui, le jugement, c'est tout simplement la somme d'appréhension. Et vous restez par le fait même toujours dans l'abstrait. Et vous ne rejoignez jamais le concret. Donc, c'est l'intelligence qui, a priori, connaît les idées. De Occam, on passe à Kant. Tandis que pour Thomas d'Aquin, et pour Aristote, l'expérience me fait toucher le concret. C'est immédiat. Je ne connais homme que par Pierre. Et je ne connais Pierre que par « et ». Il existe. Et c'est le parcours que nous devons respecter et comprendre. Ça, c'est la critique qui fait comprendre ça. Qui fait comprendre comment? Cuidité, verbe, nom. Il faut beaucoup réfléchir à ça, quand vous avez le temps. Très élémentaire, c'est tout à fait premier, mais c'est là où on voit toutes les confusions. Les idéalistes passent de homme à congrès, du moins, ils veulent passer de l'homme à congrès. Ils veulent faire que l'universel devienne concret. Et l'universel devient concret par tel homme. C'est Don Scott qui a dit ça. Ce qu'on appelle l'ecce itas, tel homme, cet homme. On ajoute à homme ce qu'il y a de concret. Cet homme a un nez particulièrement éminent. Et donc, à partir de là, je reconnais Pierre. Vous voyez, alors j'additionne à homme, tel homme. Vous voyez, c'est un procédé artistique, ça. C'est la caricature. La caricature. Vous mettez uniquement le nez premier. Ah, vous reconnaissez. C'est cet homme, oh, tout de suite, tout le monde sait. Vous avez ajouté à homme, tel. Il y a un œil. Il y a un œil. Le cyclope. Il a deux yeux tout à fait disproportionnés. Et il suffit de mettre ça, le grossir, on ne voit plus que ça. Les chitas, la caricature, procédé artistique. Vous passez de l'universel au concret en ajoutant une note particulière, individuelle, accidentelle. Les chitas. Et vous n'avez plus la connaissance du réel. Se passe, point de vue critique, hein, tout se passe dans le lien entre appréhension et jugement. Donc, entre ces trois aspects, homme, nom et verbe. sceptique commence par essayer de comprendre ce qu'est l'appréhension, un mode abstrait d'assimilation. J'assimile pleinement ce qu'est l'acuité, l'intelligence première de toutes les réalités. Et à partir de là, j'ai le concept de cette chose. Je conçois le fruit de l'assimilation. Je conçois cette réalité qui a sa signification. La signification est premièrement dans le concept. Elle n'est pas dans la réalité qui existe. La réalité qui existe porte le fondement de la signification. Mais la signification apparaît dans la vie de l'intelligence quand j'ai assimilé la chose, que je la conçois intérieurement, selon un mode abstrait. Et j'ai une signification universelle. Puis je vois comment cette appréhension qui est présente dans le jugement, va connaître une transformation complète à partir du jugement. Par l'abstrait, par la connaissance du verbe, je vais connaître le concret. Pierre existe. Et le jugement implique une adhésion ou une non-adhésion. Le jugement est donc double. Vous voyez, c'est ce qui montre comment le jugement n'est jamais premier. Il y a composition, il y a affirmation et négation. Tout jugement est ou affirmatif ou négatif. Ce qui montre que le jugement n'est pas simple, puisqu'il peut se diviser en deux. Les jumeaux de la vie intellectuelle. Ils se divisent l'affirmation première. Donc il y a deux compositions, nom et verbe, affirmation et négation. Or, l'affirmation et la négation portent sur le verbe. Ceci est, ceci n'est pas. Je vous rappelle très rapidement, quelques notions absolument essentielles au point de vue critique. Au point de vue critique, on va beaucoup s'arrêter à l'abstraction. L'intelligence abstraite. La vie de l'intelligence ne peut exister qu'au niveau de l'abstraction, en premier lieu. Mais l'intelligence a horreur de l'abstraction. Pourquoi ? Parce que l'abstraction, c'est son conditionnement, c'est pas sa finalité. Pourquoi j'abstrais ? Parce que mon intelligence est d'une fragilité, d'une faiblesse énorme. C'est l'aspect rationnel de l'intelligence qui implique l'abstraction. C'est l'aspect devenir de l'intelligence qui implique l'abstraction. Mais l'intelligence en elle-même n'est parfaite que dans le jugement. Et dans le jugement, ceci est. Voyez que l'être n'apparaît pas dans l'appréhension, mais dans le jugement. Si donc vous concevez le jugement comme une somme d'appréhension, vous ne saisirez jamais l'être. Vous ne saisirez jamais le rôle important du verbe. Pierre marche. Pierre est marchant. Pierre mange. Pierre est mangeant. Oui, dans tous les verbes, il y a le verbe être. Et puis il y a un état. Après l'appréhension, le jugement, on voit le raisonnement qui est déjà présent. Vous voyez, comprenons bien. Le raisonnement présuppose l'abstraction. S'il n'y avait pas d'abstraction, il n'y aurait pas de raisonnement. Parce que le raisonnement, il n'existe que dans l'intelligence. Vous n'avez jamais vu le raisonnement dans la réalité. Heureusement, assez effrayante par le raisonnement de l'araignée. C'est le combat des coqs. Dans la réalité, il peut y avoir des oppositions et des unions. Et on peut assimiler raisonnement à union et séparation. Alors vous avez une pensée dialectique. La pensée dialectique, c'est une pensée qui considère que le raisonnement, qui est un tout, est ce qu'il y a de plus parfait dans la vie intellectuelle. Et vous cherchez le raisonnement le plus parfait, qui est la dialectique. Un raisonnement qui unit des contraires. Et unissant des contraires, elle a ce que de plus parfait. Plus les contraires sont contraires. Elle unit l'être et le non-être dans le devenir. Et là, je suis en face d'une confusion entre raisonnement et jugement et appréhension. On a vu la diversité des raisonnements. Raisonnement inductif, raisonnement déductif. Le raisonnement inductif part du singulier vers l'universel. Le raisonnement déductif part de l'universel vers le singulier. Il y a la montée et la descente. Par l'induction, je monte. Par la déduction, je descends. Je descends plus ou moins vite. Je descends sur le haut plateau. C'est pas si mal. Je suis pas encore dans la vallée. Parce que les descentes se font plus ou moins vite. Alors les déductions, il peut y avoir des déductions qui restent très élevées. La déduction implique toujours une conclusion. Tandis que l'induction n'implique pas de conclusion. Elle implique la saisie d'un premier. Qui n'est pas une conclusion. C'est la saisie des principes. Et le principe, c'est juste l'inverse de la conclusion. Tandis que tout raisonnement déductif implique une conclusion. Alors, maintenant, nous allons entrer dans la seconde partie de la critique. La critique de mon affectivité. La critique de mon affectivité, c'est-à-dire de toute ma connaissance affective. Il existe une connaissance affective. J'aime Pierre. Je l'aime tellement que mon affectivité fait que je déraille tout le temps. Quelqu'un qui est amoureux de Pierre voit à travers son amour de Pierre toutes les réalités. En vie commune, ça se voit, ça. Celui qu'on aime devient un prisme et on voit tout à travers lui. Alors ce prisme grossit, ce prisme diminue. Et ce qu'il y a de bon, c'est qu'on ne s'en aperçoit pas. On confond la vue directe et la vue rétro. Ça, c'est très gênant. Source d'accident. Alors, qu'est-ce que c'est que la connaissance affective? Et comment critiquer la connaissance affective? C'est quand même très important de comprendre ça. La connaissance affective, c'est l'alliance de l'amour et de l'intelligence. Je connais l'autre en l'aimant. Et en l'aimant, il devient moi-même. C'est sûr. L'ami, c'est un autre moi-même. Et l'intelligence peut très bien s'allier à l'amour. Et quand l'intelligence s'allie à l'amour, consciemment, hein, je suis conscient de connaître mon ami d'une autre manière que intérieur et non plus de l'extérieur. Et quand je connais quelqu'un de l'intérieur, je connais certains secrets. Et le secret, qu'est-ce que c'est que le secret? Il faut critiquer ce que c'est que le secret. Le secret, c'est le concept d'une connaissance affective. Est-ce que le secret est du côté de l'appréhension ou du côté du jugement? Ah. Est-ce que le secret joue un rôle très très important dans la connaissance affective? Alors posez-vous la question. Il n'y a pas beaucoup de philosophie du secret. Les néoplatoniciens faisaient la philosophie du secret et du silence. Parce que le silence est une conséquence du secret. Quand vous voulez chercher le silence, cherchez le secret. Si vous ne cherchez pas le secret, vous n'aurez jamais le silence. Dès que vous portez un secret, vous êtes silencieux. Et si ce secret s'empare de toute votre vie devient silencieuse. En dehors du secret, vous n'avez pas de silence. Ça, c'est très important pour comprendre ce que c'est que l'intériorité. La véritable intériorité provient du secret qu'on porte. Sartre dit dans son théâtre « Mort sans sépulture » une parole digne des pères de l'Église. Alors la rencontre de Sartre et des pères de l'Église, c'est intéressant. Elle se fait sur quel endroit, quel moment, quand Sartre parle des maquisards qui portaient le secret de la stratégie des maquisards. Le maquis. Et qu'on les torturait pour arracher leurs secrets. C'était le gros problème. A-t-on le droit de torturer pour arracher les secrets? On est en temps de guerre. Si j'arrache le secret, je sauve peut-être la vie à 100 personnes. Si je n'arrache pas le secret, ces 100 personnes mourront, tomberont dans le panneau. Ai-je le droit de torturer quelqu'un pour sauver 100 personnes? Ça se posait comme ça, en temps de guerre. Je me souviens, quand j'avais été prêché aux aumôniers militaires, en Algérie, il m'avait emmené aux messes des ouvriers, des officiers. Il m'avait emmené là pour parler avec eux. Et tout de suite, ils m'ont posé le problème comme ça. À propos de la torture. Alors j'ai dit, j'ai répondu, peut-on faire le mal pour avoir le bien? J'ai dit, vous voyez, ça se rattache à un aspect machiavélique, ça. Parce que la torture, ça peut aller très loin. Et Sartre dit ceci, quand on porte un secret, on est capable souffrir énormément. Le secret qu'on porte donne la force. Dès qu'on a arraché le secret de quelqu'un, il n'a plus aucune force. C'est ce que disent les pères de l'Église, pas tout à fait dans le même contexte, dans un autre contexte, en montrant que le chrétien a un secret. Et quel était le secret des chrétiens? C'était l'Eucharistie. Et Et les chrétiens, quand ils portaient l'Eucharistie, qu'ils risquaient d'être arrêtés par les païens qui s'opposaient à eux. Leur force était de garder le secret. Parce que le secret nous met dans le silence, et le silence nous remet dans l'unité, et fait qu'on n'est pas dispersé. Celui qui n'a pas de secret à porter est dispersé. Celui qui porte un secret, il se ramène à l'unité. C'est très fort, ça. C'est très intéressant pour voir toute la différence entre le concept et le secret. Il y a une parenté entre les deux. Alors, la grande question qui se pose, est-ce que le secret est de l'ordre de l'appréhension ou de l'ordre du jugement? Le secret est toujours à partir de l'amour. Et l'amour est toujours concret. Or, l'appréhension a un mode abstrait. Donc, le secret est de l'ordre du jugement. Toujours. Un secret, c'est une affirmation affective sur quelqu'un. Je porte le secret que telle personne a été parachutée à tel endroit. Je porte le secret que telle personne a déposé des mines à tel endroit. Je porte le secret d'une rencontre clandestine, et ainsi de suite. Et il y a un réseau de secrets dans une stratégie en pays ennemi avec les parachutés. Et leur gros problème de parachutés, c'était de garder le silence. Et on leur donnait, vous savez bien, petite boule qu'ils pouvaient avaler, elle était mortelle au moment où ils risquaient de ne plus être assez fort pour garder les secrets. Et c'était le problème que m'avait posé une fois un parachutiste. Je connais tout le réseau. Si on me torture, je risque de ne plus avoir la force de maintenir le silence. J'ai ça dans la main. Elle avait même sorti cette petite boule qu'on lui avait donnée. C'était du magnésium, je crois. J'ai ça dans la main. Père, je risque de m'en servir. Alors je vous la donne. Mais c'est extraordinaire de voir ce que c'est que le secret. Un réseau de secrets en temps de guerre. Un secret qu'on porte dans son cœur, qui nous relie à telle personne, et qui fait les zones de silence. Et je crois que la connaissance affective doit se comprendre à partir du secret. Parce que c'est là où je vois l'alliance de l'amour et de l'intelligence. Et que cette connaissance affective apporte des zones de silence.